FM 93.
Bouchard en parle. J'ai pris un verre avec.
C'est le combienième, Elisabeth?
25.
Ah, oh, ouais! Notre 25e un verre avec. Connaissez la formule? On prend des gens connus, des gens qui ont des choses à raconter. Et au lieu de les inviter ici en studio, c'est sûr qu'il y a un cadre officiel, tout ça. On s'en va prendre un verre avec. Au restaurant, dans un bar, à quelque part. Et l'on jase. Pas de micro. Ben, il y en a un, mais caché,
ouais.
Genre. Là,
c'est ça.
Alors, conversation à bâton rompu, comme on dit, ça donne des choses vraiment intéressantes. La prochaine invitée, je pensais pas qu'elle allait dire oui. Parce que c'est Pauline Marois, l'ancienne première ministre du Québec et chef du Parti québécois. Disons que dans le passé, on a été très critique envers elle. J'assume tout ce que j'ai dit, mais anybody but Pauline?
Oui. C'est ta campagne, ça, dans le temps?
On a fait ça. On a, ben, pas campagne. C'était mon idée, mon opinion. À l'époque, je sais que ils ont pas aimé ça. Bon. C'est normal. Mais bravo. Honnêtement, je la remercie d'avoir accepté de te rencontrer et de nous parler.
Oui. Ça a été long aussi. Ça a pris un an.
Ouais.
Oui, parce que c'est une des premières qu'on avait lancées à l'époque. Et elle a toujours dit non jusqu'à tout récemment. Fait que j'étais bien, bien contente de la prendre juste avant qu'elle parte pour l'hiver, d'ailleurs, aussi. Et donc, on a abordé une tonne de sujets. Et je vais pouvoir tout présenter ça ce matin. Et la première chose qu'on a abordée, tu sais qu'on a souvent parlé, c'est le des politiciens qui
t'as
font pas
dire
le...
dire ce matin.
Oh, mon Dieu, excusez-moi.
C'est ta quatrième fois aujourd'hui.
Non, ça comptait pas tantôt.
Les
je sais. J'ai répondu, c'est Esther qui a écrit. Je disais que j'avais lu une nouvelle ce matin. J'ai été surprise ce matin quand j'ai lu la nouvelle.
Tout pardonné.
Ben, mais hein? J'ai répondu à Esther.
Innocente jusqu'à preuve du contraire.
C'est ma première aujourd'hui. Donc, on a parlé, tu sais qu'on a souvent parlé, Sylvain, toi et moi, des politiciens qui font pas de la politique pour les bonnes raisons. Tu sais qu'ils sont là un petit peu pour l'aspect peut-être glamour, pour la limousine.
Le pouvoir.
Le pouvoir.
L'argent.
Bon, voilà.
Ah oui?
Et Mme Marois pense que ça paraît qu'un politicien est pas là pour les bonnes raisons.
Pour l'aspect glamour, qui est pas tant glamour que ça, mais il y en a qui pensent que ça l'est. C'est que c'est tellement exigeant, la politique. Tellement difficile. Qu'à un moment donné, il faut que tu la fasses pour la bonne raison. L'aspect un peu glamour, il disparaît rapidement, hein, sous les critiques, sous les commentaires désobligeants, etc. Si tu n'y es pas pour les bonnes raisons, moi, je pense qu'à ce moment-là, ça finit par paraître dans l'attitude que tu as, puis les citoyens se rendent compte de ça. C'est vrai qu'il y avait peut-être plus de prestige à être en politique, à être un élu. Il y en a un petit peu moins, puis il y a plus de cynisme. J'en conviens. Mais est-ce que c'est à ce point répandu? Moi, j'ai le sentiment qu'on a atteint un point où on est en train de reviser un peu ses positions. J'ai ce sentiment-là. Je peux me tromper, mais j'ai ce sentiment-là actuellement.
Compte tenu de sa situation familiale, fortune et autres, je pense pas que Mme Marois était là pour de l'argent.
Non, ben non, pas du tout.
On s'entend, là.
Quoi qu'elle a commencé, écoute, elle avait 21 ans quand elle a commencé à faire de la politique. Son mari, puis elle, était pas riche à ce moment-là. Là.
Non.
Mais,
non.
Évidemment, au fil de sa vie,
suite,
oui.
C'est correct, mais je pense que, même si on n'était pas d'accord avec elle, je pense qu'elle y était pour les bonnes raisons.
40 ans en politique, Mme Marois. C'est énorme. C'est énorme.
Moi,
ouais,
c'est beaucoup.
Aujourd'hui, les gens se laissent aller sur les réseaux sociaux quand ils sont pas satisfaits d'un politicien. On en parle souvent des réactions sur les articles, là. Et quand Mme Marois a commencé en politique, elle avait 20 ans. Peux-tu dire qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux? Dans le temps. Comment les citoyens leur transmettaient leurs critiques à l'époque? Vous allez voir que les temps ont bien changé.
Bien, d'abord, ils pouvaient nous écrire. Oh, oui, des lettres, oh, oui, on en a eu. Ils pouvaient téléphoner à nos cabinets, à notre bureau. Quand c'était des groupes, ils pouvaient venir manifester. Et moi, j'en ai eu jusqu'à plus soif. Des manifestations devant mon bureau de comté, devant mes bureaux ministériels, selon les politiques qu'on adoptait, les orientations qu'on choisissait. Il y avait cette façon-là de l'exprimer. Et l'autre, c'était à travers, entre autres, les lignes ouvertes. Ben oui, à travers les lignes ouvertes, les gens faisaient des charges contre nous. Puis certains journalistes plus polémiques, ou certains commentateurs, eux grimpaient au rideau. Et puis, nous attaquaient. Alors, c'est comme ça qu'on avait des points de vue qui venaient de la population. Quand on se promenait sur la rue, les gens sont quand même assez polis au Québec, hein, et assez respectueux, malgré tout. Vous seriez étonnés. Moi, j'ai pas été souvent interpellée de façon agressive pour mes positions, pour ce que j'étais, pour mes convictions. Okay. C'est arrivé quelques fois que des gens vont me parler avec un ton un peu dur, là, mais sinon, non.
Les lignes ouvertes, c'est vrai.
Les gens sont respectueux dans la rue, sur le trottoir, mais dans le sol, avec le clavier, anonyme. Ça change tout.
Ouais,
c'est ça qui a changé beaucoup en 2019.
Vraiment.
T'sais, là, les gens se permettent n'importe quoi.
Puis des fois, c'est méchant. Pis on va parler de la...
On l'a dit, c'est pas les pingouins qui glissent le plus loin.
C'est une nouvelle expression,
ouais,
ça, c'est vrai.
Ceux qui font ces commentaires-là. Là,
et on va parler de la fameuse carapace. Pauline Marois a été beaucoup critiquée en politique, comme plusieurs autres politiciens d'ailleurs. Et la fameuse carapace dont on parle pour se protéger des commentaires désobligeants, est-ce qu'elle existe vraiment?
Ça nous atteint toujours un peu, mais je veux faire une différence. Là où je suis toujours atteinte, c'est quand on m'attaque personnellement pour mon conjoint, pour mon allure et tout ça. Ça, c'est gratuit. Les gens vont nous attaquer pour notre allure, pour d'où on vient, pour qui on est, plutôt que d'attaquer les politiques que l'on met de l'avant, les idées qu'on a. Ça, c'est normal. On est dans une société démocratique. Que des gens n'aiment pas le point de vue que l'on défend, les propositions qu'on met de l'avant. Moi, j'ai mis de l'avant plusieurs politiques, entre autres sur la question de la laïcité. J'ai déconfessionnalisé avec mes collègues. Quand je dis « j'ai », là, je devrais être humble, parce que on fait jamais ça tout seul. Pour moi, c'est une cause à laquelle je croyais beaucoup, laïciser l'État. J'ai été cohérente toute ma vie là-dessus. Mais il y a des gens qui peuvent avoir un point de vue très différent et qui l'expriment et qui parfois l'expriment avec des propos un peu durs. Qu'on les attaque parce qu'on a un point de vue différent, je suis capable de le prendre. Je sais pas si ça s'appelle une carapace, mais ça m'atteint pas comme si on me disait « être idiote ». Ça, c'est des choses que avec lesquelles j'ai de la difficulté à vivre. J'agis toujours de bonne foi. Je peux faire des erreurs, ça... J'admets, c'est humain, puis j'en ai sûrement fait, puis je sais que j'en ai fait. Oh, alors d'accord, je ne dirai pas lesquels. Non, mais je sais que j'en ai fait. Mais je sais que je suis toujours de bonne foi. Mais pour le reste, c'est pas une carapace, vraiment, parce qu'en même temps, je regarde les caricatures qu'on faisait sur moi. Et parfois, on a fait des caricatures très dures, mais je me disais, oh, il touche quelque chose de vrai.
Ah oui.
Ouais. Donc, la carapace est pas épaisse. C'est assez mince, finalement.
Mais, j'aimerais ça dire de quoi? Là-dessus, compte tenu de nos antécédents, des chicanes, de passé, de... Je sais qu'ils n'ont pas aimé Anybody but Pauline, mais c'était pas personnel. Ça pouvait paraître personnel, parce que le slogan, c'était Anybody but Pauline. Ça avait l'air à dire, n'importe qui est meilleur que toi, Pauline Marois, Urk, tout est bon à part toi. Mais Anybody but Pauline, c'était le slogan. Tout ce que je disais à l'époque, c'est qu'il fallait bloquer le Parti québécois.
C'est le parti,
en fait. Mieux valait voter pour n'importe qui avait des chances de gagner. On savait pas trop à l'époque, c'était-tu l'ADQ, les libéraux, finalement, on a voté libéral.
Mm-hmm.
Parce que c'est eux qui avaient le plus de chances de bloquer le PQ. Moi, je voulais pas, j'étais pas le seul. D'un référendum, c'était pas le temps, pantoute. Alors, pour ne pas que le PQ accède au pouvoir, il fallait être stratégique et voter pour le parti dans votre comté qui pouvait le plus battre le péquiste. Et on a parlé de Anybody but Pauline. Mais c'était pas personnel.
Ouais.
Moi, la personne, Pauline Marois, d'abord, je la connais pas.
Ben, c'est ça.
Très
c'est
peu,
ça.
Je pourrais dire. Je veux pas là, rentrer dans l'hommage. Oh, mais bon, c'est une mère de famille. C'est que j'ai rien contre elle.
Mm-hmm.
Mais je voulais pas de référendum.
C'est ça.
Ça aurait pu être Anybody but un référendum.
Ou but Parti québécois, mais ouais, peut-être anybody... ça a été interprété.
Non, mais
ouais.
c'est plus vendeur, Anybody but Pauline.
Oui, c'est sûr. But Parti c'est... québécois, ça sonne pas bien, bien.
Excusez-moi, ça se dit mal. Anybody but référendum.
Hey, une question que je me suis toujours posée.
Ouais.
C'est, est-ce que c'est possible d'être chef de parti en étant célibataire et sans enfant? Parce que tu vas convenir avec moi que c'est pas arrivé souvent dans le passé. Les chefs qui font campagne vont mettre la famille de l'avant, puis voici mes enfants,
les
voici
enfants,
ma femme.
Tout
puis
ça, la famille.
Bon, voilà. Hein? Est-ce que Pauline Marois aurait été capable de faire de la politique célibataire et sans enfants? Est-ce que son parcours aurait été plus difficile?
Oui, ouais, il aurait été plus difficile. D'ailleurs, j'ai toujours dit que et mon entourage et mon entourage amoureux, personnel, ma famille, ça a été pour moi un lieu et un espace où je trouvais de la sérénité et de l'équilibre. On m'acceptait sans condition. On m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que je faisais nécessairement ou ce que je faisais pas, etc. C'était mon havre de paix. Et les gens qui m'entouraient, c'était des gens habituellement très forts. Et donc, cet entourage-là n'était pas des gens qui étaient des bénis oui-oui. C'était pas des gens qui disaient toujours comme moi, mm-hmm. qui disaient toujours « Vous êtes bien fine, madame. Tout est bon, tout est parfait. » Non. Il y a des matins où on disait « Là, cette conférence de presse-là, c'est raté. » Et si j'avais été célibataire, je n'aurais pas fait la même carrière que j'ai faite. J'ai pu plus facilement le faire, peut-être, parce que il y avait quelque part un lieu où je me sentais bien, en sécurité, où on me critiquait pas. C'est-à-dire, mes conseillers, ça, c'était autre chose. Oui, mais c'était en même temps des gens fiables.
Fait qu'il y avait une différence. La vie personnelle, là, on m'aime peu importe, on me critique pas. Dans la vie professionnelle, entoure-toi de gens qui vont être capables de te remettre en question, par exemple.
Ouais, ouais.
Ça, c'est important. À 20 ans, Mme Marois s'est engagée en politique.
Hey, c'est jeune.
C'est jeune, aussi. Là. Écoute, ouais. C'est comme si j'étais active en politique depuis quasiment 9 ans. C'est capoté, pareil, là. Tu sais, 20 ans.
Madame et
là,
la j'ai... députée Grèce.
Ben oui, c'est ça. J'ai dit, s'engager en politique, c'est quelque chose quand même à 20 ans. Ça a été quoi les raisons qui ont poussé Mme Marois à s'engager en politique aussi jeune? Parce qu'aujourd'hui, on dit que les jeunes s'intéressent moins à la politique.
Bon, moi, d'abord, je suis pas d'accord avec ça. Quand on voit ce que fait Greta Thunberg, puis voit les jeunes Québécois et jeunes Québécoises qui se sont impliqués dans la marche sur la question des changements climatiques, c'est quand même exceptionnel, des jeunes du niveau secondaire. Alors, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que les jeunes ont un niveau de sensibilisation à des causes qui sont les causes d'aujourd'hui. Ils sont pas les causes que l'on avait il y a 15 ans ou 20 ans ou 30 ans. Mais la question de pourquoi cette jeune femme que j'étais à 20 ans décide de s'engager. D'abord, j'ai eu une vie avant la politique. Elle a pas été très longue, mais elle était très pleine. J'ai dirigé un CLSC. J'ai enseigné dans un cégep. J'ai enseigné à l'Université du Québec, en Outaouais. On oublie ça, oui, parce que comme on m'a vu publiquement toujours dans des situations politiques, on oublie cet aspect-là. J'ai deux formations. J'ai un baccalauréat en services sociaux de l'Université Laval, puis j'ai une maîtrise en administration des affaires, c'est plus communément appelé EMBA.
Oui.
La cause de mon engagement, elle a commencé quand j'avais 20 ans pour combattre les inégalités sociales. Et l'autre cause qui a animé mon engagement, c'est l'indépendance du Québec. Je suis devenue indépendantiste quand j'ai travaillé dans l'Outaouais, où j'ai découvert ce qu'était l'acculturation d'un peuple. À ce moment-là, il n'y avait pas de loi 101. L'anglais prenait une place très importante dans le quotidien des gens qui vivaient en Outaouais. Des structures de phrases, les mots choisis, etc. Citoyens de seconde classe aussi, hein. Il y a déjà quelqu'un qui a écrit « Nègre blanc d'Amérique »,
oui.
Mais nous étions des citoyens de seconde classe et je m'en rendais en particulièrement compte à la zone frontalière où j'étais à Hull à l'époque.
D'ailleurs, ça, c'est intéressant, c'est selon moi. Mais on peut dire que les péquistes, le rêve des indépendantistes, de Marois à Parizeau, en passant par Lévesque ou d'autres, ne s'est jamais réalisé.
Mm-hmm.
Hein? Alors, c'est un échec. Sur le plan constitutionnel, c'est le cas. Mais sur le plan de la société, je suis pas d'accord. Parce que, je sais pas si à cause d'eux autres, ça aurait peut-être pu se faire sans eux, mais bon. Le Québec s'est beaucoup émancipé. Tout ce que Mme Marois a décrit, là, l'anglais partout, les injustices, les inégalités, et puis là-dedans, là.
Ça s'est amélioré beaucoup.
Montréal, c'est plus une ville qui est dominée par une élite anglophone bourgeoise comme c'était le cas dans les années autrefois même 50, 60, 70. Il y a ce qu'on appelle un Québec Inc. Il y a les immigrants parlent français, la loi 101, etc. Donc, on est encore dans le Canada, mais de faire du Québec, des Québécois, des gens plus fiers, plus confiants, en général, ils ont réussi.
Mm-hmm. C'est vrai. Il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites depuis l'époque où a commencé. Ouais.
Mais c'est à cause de ça qu'on ne se séparera pas.
Ben, c'est peut-être pour ça que la question est moins à la mode. Là.
Pour beaucoup de gens, il n'y a plus de raison.
C'est vrai. À 20 ans, là, pour s'intéresser à la politique comme ça, est-ce que dans votre enfance, à la maison, vous parliez de politique?
Pas du tout. Ben, c'est-à-dire un peu. D'abord, mes parents, j'étais un milieu très humble. Hein? Papa était ouvrier, était mécanicien. Il travaillait dans un grand garage de Québec. Il réparait des camions lourds. À ce moment-là, ils n'étaient pas syndiqués. Ils avaient des salaires assez ordinaires. Ma mère a été enseignante pendant quelques années. En fait, pour ne pas dire 2 ans, dans une école de rang. Mais quand tu te maries, tu peux plus enseigner à l'époque, hein? Bon, ben, elle pouvait pas rester à l'école. De toute façon, ils dormaient à l'école, les deux enseignantes, et puis ils chauffaient le poêle le soir pour que les enfants arrivent le matin et que ce soit chaud dans l'école. Ma mère a enseigné quelques années. Pour elle, l'éducation, c'était très important. Mais je pense que c'était encore plus important pour mon père, qui, lui, n'avait pas fait... Il s'en souvenait pas s'il y avait une 3e ou une 5e année. C'était un intellectuel à sa façon, mais c'était un ouvrier. Et puis, il n'y avait pas eu de formation, il n'avait pas été à l'école longtemps, etc. On causait pas beaucoup de politique à la maison. On venait pas de cet univers-là. Par contre, mon père faisait beaucoup de bénévolat. Maman, elle recueillait souvent des enfants de ses sœurs ou de ses frères. Ils étaient 10. Puis, il y en avait toujours un qui était malade, des choses comme ça. Que maman, souvent, en gardait à la maison. Alors, je pense que c'est leur générosité qui m'a amenée à me dire on peut aider les gens. Et mon service social m'a amenée à être encore plus sensible à cette réalité-là.
Tu sais, des fois, quand je dis que c'est... Bon, on s'est peut-être pas séparés parce que, justement, il y a eu une amélioration beaucoup au Québec. Bon, là, on parle d'autre chose, mais l'éducation. C'est spectaculaire, pareil. La mère de Mme Marois, OK? Couchait à l'école oui. pour chauffer le poêle pour les enfants. Et elle est devenue, elle a une maîtrise en MBA. Un MBA. Et elle est devenue ministre de l'Éducation et première ministre.
C'est fou, hein?
En l'espace d'une génération.
Oui.
C'est pas deux, c'est une c'est génération vrai? De... Je suis là pour réchauffer le poêle pour les enfants à première ministre.
Ouais.
On a évolué.
Mais. Puis là, on parlait de quelque chose qui est arrivé lorsqu'elle avait 20 ans. Puis la discussion a tourné vers son mariage parce qu'elle s'est mariée à 20 ans. Écoutez bien.
À ce moment-là, là, imaginez, là, j'ai 21 ans, 20 ans. Je me suis mariée à ce moment-là. J'avais 20 ans quand je me suis mariée. J'étais mineure. Mon père a signé.
Ah oui?
Ouais. Chez le notaire. Pas du tout. Mais on voulait se marier parce qu'on ne pouvait pas vivre ensemble. Ça se faisait pas beaucoup. Hein? À l'époque, c'était pas bien vu. Fait qu'on s'est dit, non, nous, on va avoir la paix. On va se marier comme ça.
Pour se marier, 20 ans?
J'étais très jeune. Mais je ne l'ai jamais regretté. Jamais, jamais, jamais de toute ma vie. Ça fait 50 ans que je suis mariée.
Wow.
Avec le même homme, évidemment. Oui, toujours en amour.
Fait que pour habiter ensemble, il fallait qu'ils se marient. Fait que s'il faut le faire à 20 ans, mineur, on va le faire pareil. Puis c'est le père de Pauline Marois qui a signé l'autorisation pour qu'elle puisse se marier. Parce que c'était 21 ans pour être majeur à l'époque.
On va célébrer ses noces d'or.
Oui, c'est vrai.
De
c'est quand même exceptionnel.
De plus en plus rare.
Oui, vraiment.
On va voir ça de moins en moins.
Moins
c'est
en moins.
50, hein?
Oui, je pense que c'est
25,
ça.
25, c'est
oui.
argent. 50, noces d'or.
C'est ça.
60, noces de diamant.
Ah, c'est là, je connais
si pas. Je ne m'abuse.
Pour ça, je ne connais pas forcément que c'est rendu à 60 encore.
C'est ça. 60 ans, voilà. C'est noces de diamant.
Une chose qui est extraordinaire de Pauline Marois, c'est qu'elle a eu tous ses enfants tout en étant en politique active. Elle a même fait des campagnes électorales enceinte. Là. Et je racontais qu'encore aujourd'hui, il y a des milieux professionnels où les femmes repoussent le projet d'avoir des enfants à cause de leur carrière. Puis les médias, ça n'est un milieu comme ça. Tu as probablement été à même de constater dans ta carrière qu'il y avait des femmes qui n'osaient pas trop tomber enceinte parce qu'elles avaient peur de ne plus avoir leur place quand elles reviendraient.
Ouais. Ouais.
Et donc, on a parlé de ça avec Mme Marois, puis j'ai demandé comment vous avez décidé, vous, de faire les deux ensemble.
Toutes les situations dans la vie de quelqu'un comportent des aspects positifs, des aspects négatifs. Vous dites, j'ai pas d'enfant, mais j'aimerais ça en avoir. Mais il y a un manque chez vous à ce moment-là. Vous vous en privez parce que vous avez une carrière. Moi, je voulais pas me priver. Je voulais faire les deux. Je voulais avoir une carrière. Je ne pensais pas en termes de carrière à ce moment-là, mais je voulais avoir un travail intéressant. Mais je voulais avoir des enfants. Pas tout de suite. Pas au début du mariage, parce que... Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi... Pour moi, c'était pas question d'avoir des enfants si mon mari et moi, on partageait pas les tâches. Parce que les enfants, ça appartient aux deux. On les fait ensemble. Mon idée, c'était que si c'était possible, que jamais je n'ai à vivre de séparation et que surtout, on puisse avoir des enfants, ben, je les élèverais pas tout seul. Alors ça a été clair dès le départ. C'était exceptionnel. C'était en finance, il était adjoint d'un président d'une très grande compagnie à Ottawa. Il travaillait très fort, il avait des tâches et des responsabilités énormes. Il n'y avait rien d'humiliant à laver la vaisselle, puis à faire un lavage, puis il y a une affaire que j'ai jamais appris, c'est à repasser. J'ai oublié ça. Il fait à manger, c'est assez bien à manger même. Pas des choses très sophistiquées tout le temps, mais il fait des bonnes choses. Il a fait les sandwichs des enfants toute leur vie scolaire ou secondaire. Oui. Tout le monde partait avec sa belle baguette, avec son jambon, son fromage, ses jus, son petit fruit, puis ses légumes. Mais sérieux, c'est vraiment ça. Je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait si j'avais pas eu le mari que j'ai eu, si j'avais pas décidé qu'on partageait les tâches, parce que je voulais pas sacrifier ni l'un ni l'autre. C'est une chose que je dis souvent, souvent aux femmes. Il faut que vous acceptiez de lâcher prise. Si vous ne lâchez pas prise, vous y arriverez pas. Et lâcher prise, ça veut dire, par exemple, que moi, ma maison, j'aime ça que c'est en ordre, puis tout est placé, bien placé, tout le machin. J'écoutais ma mère René Dufort, ça, c'est vraiment niaiseux, ce que je vais vous dire là. Il faisait des bêtises, là, évidemment. Puis là, il disait, il y a des questions que j'ai. Comment plie-t-on un drap contour? Est-ce qu'il y a une façon de plier un drap contour pour que ce soit bien fait? J'ai eu quasiment envie de lui envoyer un texto pour lui dire, je vais vous montrer, Jean-René, je suis capable, moi. Et dans mon armoire, mes draps contours ont l'air de draps plats. Puis quand je rentrais à la maison n'était pas organisée comme moi, je l'aurais souhaité. On est contrôlante, hein, les femmes, on veut que tout soit fait comme on l'entend et tout. Ça a l'air de petites choses, mais c'est des choses très importantes.
C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi.
J'ai vu ta face.
Dit, c'est elle, on va garder ce petit bout-là. C'est que, non, ça serait
on est contrôlante,
c'est ça, on est contrôlante. Moi, les draps contours, j'ai lâché prise. Moi, j'ai combiné deux de ces affaires.
Quoi?
Ah, c'est une motte.
C'est une motte, ton droit contour, ah oui?
Dans mon armoire, c'est une motte.
Mais je vais t'avouer
que... Je plie pas ça, je suis pas capable, c'est terminé. C'est en ordre chez nous, là.
Ouais.
Si vous me connaissez, le bureau tout. Tout est en ordre chez nous. Si tu ouvres l'armoire à draps, là, où il y a des draps, là, quelque part en arrière, il y a une motte.
Mais je vais t'avouer que moi, j'ai connu des gens qui étaient capables de plier des draps contours, mais elle, ce qu'elle dit, c'est quand tu ouvres mon armoire, il n'y a aucune différence entre le drap contour et mon drap plat. Moi, j'ai jamais vu ça, par exemple.
Moi, j'ai retenu lâcher prise.
C'est ça!
Elle a aussi dit ça. Des fois, il faut comme faire, regarde, le repassage. Elle parlait du partage des tâches, là. Repassage. Moi, j'ai de la misère.
Bon, écoute, c'est correct. Je fais pas aussi, ça. T'as des forces ailleurs.
Je fais laver mes chemises chez le nettoyeur, bon, puis ils reviennent repasser.
Ah, ben, regardons ça. Pas besoin de l'apprendre. Madame Marois s'est beaucoup fait critiquer sur son apparence, hein, Sylvain, entre autres sur ses bijoux puis ses foulards.
Ben, en raison de sa richesse.
Voilà. Est-ce qu'elle s'attendait à ce que son apparence soit autant scrutée?
Non, parce que j'y allais pour les bonnes raisons. J'aimais ça, moi. J'ai toujours aimé ça être bien habillée. J'ai toujours eu une certaine fierté à être bien habillée. Puis je trouvais que ça faisait partie du respect de la fonction. Puis du respect des citoyens qui m'avaient élue. Mais j'aimais ça, les choses colorées, les choses un peu folles. C'était pas nécessairement des choses très dispendieuses. Même les bijoux étaient souvent des petits bijoux que j'achetais dans n'importe quel comptoir, là, dans les grands magasins. Ça a pris une telle ampleur, mes foulards, mes bijoux. J'aimais ça changer de coiffure de temps en temps. Ça, ils m'ont dit. Ma gang m'a dit non, faut que t'arrêtes ça, là. Puis à un moment donné, je me suis tannée. Je me suis dit, écoute, ils regardent ce que j'ai, puis ils écoutent pas ce que je dis. C'est quand je rencontrais des gens, ils me disaient, je vous ai vu à l'Assemblée nationale l'autre jour. On me dit, oui, c'était sur quoi? Vous aviez tellement de jolie robe. Tu dis, non. C'était gentil de me dire ça, là, mais c'est pas écouter ce que j'ai dit. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait une croix sur ça. Il y a pas si longtemps, hein, c'est quand je suis revenue en politique, ben un peu avant, j'ai commencé à épurer, si on veut. Là, je me suis dit, le petit bijou, la même coiffure à peu près tout le temps, des tailleurs bleus, gris, bruns, plus de foulard, des bijoux très, très délicats. Alors, ils vont arrêter de me regarder, puis ils vont écouter ce que j'ai entre les deux oreilles.
Est-ce que Catherine Dorion peut écouter ça? Non, mais c'est l'inverse. Ah ouais. Mme Marois, elle aimait les bijoux, les foulards. Ouais. Elle s'est aperçue que son message passait pas.
Voilà.
Moi, honnêtement, à moins que je me trompe, des fois, on fait des affaires dans le passé. Je pense que je l'ai rarement critiqué sur son allure. Je l'ai critiqué sur sa toilette silencieuse, sur ses décisions, sur plein d'affaires, et j'assume entièrement. Je pense pas beaucoup avoir parlé de ses foulards. C'est pourquoi je m'en sac un peu. Ben, sauf que c'est l'apparence. Mais si tout le monde parle de ça et t'écoute pas, tu sais, quand tout le monde parle de ton coton ouetté, ton message, il passe plus.
Non,
là.
C'est ça l'affaire.
Donc, elle a dit, Mme Marois, que volontairement, c'est elle-même, elle a arrêté de faire ça.
Ouais.
Est-ce que c'est parce qu'une femme qu'on l'a jugée plus?
Ben, écoute.
La bombe, son foulard Burberry, là.
Personne n'en a parlé.
Ça vaut quoi, ça? 900? 1000? On voit à peu près 1000$.
Puis Pauline Marois m'a dit aussi.
J'en ai pas, OK? J'en ai vu à New York à 20$, d'ailleurs, les chiffres.
Non, mais c'est pas des vrais, ça.
Mais
Mme Marois, il y a des collègues à l'Assemblée nationale qui ont des complets griffés, là, qui coûtent des centaines et des milliers de dollars. Personne n'en a jamais parlé.
Ben, c'est un peu mon point. Ouais. J'ai pris la bombe, j'aurais pu en prendre d'autres parce que son foulard est devenu un peu, quasiment sa marque de commerce, il l'avait beaucoup. Bon. Mais effectivement, on juge peut-être plus sévèrement les femmes.
Écoute bien la prochaine clip. Nathalie Normando m'avait déjà dit que parce que la période de questions est filmée, que des extraits qui sont souvent présentés dans les médias, c'est une belle occasion de critiquer l'apparence des politiciens à ce moment-là parce qu'on les voit. Alors elle, pour éviter de donner des raisons aux gens de parler de son apparence, elle allait chez le coiffeur les matins de la période de questions pour s'assurer que tout était en place. Ça, c'était Nathalie Normando. Et lorsque j'ai raconté ça à Mme Marois, ben voici ce qu'elle a répondu.
Je faisais la même chose qu'elle. Absolument. Puis en plus que moi, je suis très mal habile avec mes cheveux, regardez l'allure que j'ai aujourd'hui. Mais j'étais pas très habile. Alors, j'allais chez le coiffeur le matin.
Mais c'est incroyable, il n'y a pas un homme qui va chez le coiffeur.
Ben non, absolument. Puis, y a-tu quelqu'un qui remarque un tailleur, puis souvent des tailleurs griffés de certains de nos collègues?
Oui.
Je remarquais jamais ça chez les gars, mais chez nous, c'était beaucoup remarqué, les filles. Puis, tu sais, comme par exemple, pourquoi on se maquille, puis pourquoi on se coiffe, tout? Tu sais, un homme qui a l'air fatigué, là, c'est parce qu'il a travaillé fort. Mais une femme qui a l'air fatiguée, c'est peut-être qu'elle n'est pas capable de faire la job. Hein? Une femme, on parle d'un homme qui a de l'autorité, puis on parle d'une femme autoritaire.
Hey, le coiffeur le matin, sérieux, là. Puis je comprends pourquoi il faisait.
Nathalie
là.
Faisait ça?
Oui, Nathalie faisait ça.
Tous les matins?
Oui. Ben, en fait, quand il y avait une période de questions.
C'est ça. Parce qu'elle savait que s'il y avait de quoi, un peu de croche, on va le remarquer. Mais on a des yeux aussi.
Ben,
je ne veux pas défendre, mais on regarde. Puis c'est dur, des fois, de ne pas porter un petit jugement. Mais il faut quand même reconnaître que, des fois, c'est peut-être pas équitable.
J'ai voulu parler du mari de Pauline Marois. Je vais poser comme question, si votre mari avait été un ouvrier ou n'importe quel autre métier, disons, où le salaire est plus humble, est-ce que vous pensez que votre image aurait été différente?
On n'aurait jamais parlé de ça.
Non, hein?
Non. Non,
ça a été
certaine.
Un petit peu une injustice, un petit peu.
Oui, poussée, oui. Là. Moi, j'ai trouvé ça très dur, cette partie-là. J'ai trouvé très dur. Puis, en fait, il a renoncé à plein de choses. Si vous saviez, il a mis en vente des entreprises qu'il avait. Il a mis ses placements en fiducie. Oui, il a vraiment payé un prix lourd pour ma vie politique. Il a occupé une fonction importante. Il a créé des entreprises En fait, une entreprise qui est devenue une réussite, une fierté pour les Québécois. Il l'a fait avec Louis Laberge, de Fonds de solidarité. Il a créé la Société de développement des coopératives. Il a travaillé à la SGF. Et le fait qu'il était mon conjoint, il a payé un peu cher et il a été mis à la porte, il faut bien le dire, de la SGF. Et puis, on a essayé de prouver qu'il avait mal géré, etc., mais ils n'ont jamais réussi à prouver grand-chose. En plus, ceux qui ont suivi ont moins fait comme performance que ce qu'il avait fait lui, tu sais, alors qu'on le blâme.
Demandé de pas faire de la politique à
jamais, de jamais, jamais. Ça a été un allié indéfectible, malgré tout ce qu'il a dû subir. Il ne pouvait pas siéger sur rien.
Là, je suis pas d'accord avec tout, par exemple. Parce que son mari a pas juste œuvré dans le privé. Mm-hmm. Ça avait été une fortune 100% privée. J'aurais pu dire, on n'a pas d'affaire à parler de ça. Mais son mari a œuvré beaucoup dans le public, mm-hmm. notamment la Société Générale de Financement, avec une retraite, en passant, qui a beaucoup fait jaser, là, parce qu'on lui a donné une retraite très généreuse. Je reviens pas là-dessus, c'est vieux, là. Mais tu comprends que là-dessus, ouais. vu qu'il a œuvré en partie dans la sphère publique, c'était normal qu'on s'intéresse et qu'on critique. Son mari, peut-être qu'elle n'aimait pas ça, mais je pense qu'on avait le droit.
Je pense que le prochain extrait, tu vas l'aimer, Sylvain. On se souvient de ce qui s'est passé le soir de l'élection de Pauline Marois, l'attentat qui a eu lieu.
Oui.
Il y a quelqu'un qui a perdu la vie, d'ailleurs, lors de cet attentat-là. On a toutes
l'image. Un qui a été blessé,
aussi. Elle commence son discours, puis on la retire de la scène aussitôt. On s'en souvient, c'était en direct à la télé. Madame Marois s'est fait beaucoup critiquer sur la façon dont elle a géré cet événement-là par la suite. Pourquoi? À cause du choix des mots qu'elle a décidé d'employer, ça n'a pas fait l'affaire de certains membres de son parti. On l'écoute.
J'ai beaucoup de gens qui me disent « Tu as mal géré ça. Tu aurais dû dire « C'est un attentat. C'est un attentat à la démocratie. C'est un attentat à une femme souverainiste. » Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Les Anglais se réveillent. » Et puis, ils voulaient me tuer, moi. Et faire du mal à ma famille et à tous les gens qui m'entouraient, ma famille souverainiste aussi. J'ai cru que il ne fallait pas exacerber les relations avec la communauté anglophone. Déjà, d'être une souverainiste à la tête du gouvernement, j'ai toujours voulu conserver de bonnes relations avec l'ensemble des Québécois, qu'il s'agisse des Premières Nations, qu'il s'agisse des communautés anglo-québécoises. Les anglophones québécois sont aussi québécois que les francophones québécois. Oui. J'ai pas voulu utiliser cet événement-là, qui probablement, dans 95% des cas, aurait été utilisé au fin de servir politiquement.
Oui.
Imaginons que M. Charest ait eu, le soir de son élection, un attentat commis par quelqu'un qui s'identifiait aux souverainistes. Le dire, c'est le décrire. Hein? Je l'ai fait autrement. C'est moi, c'est ma façon. Et puis, j'ai été quand même très soulagée quand le juge a prononcé le jugement et en disant que c'était un attentat politique, mm-hmm. un attentat à la démocratie.
Et ouais, tout est là. J'ai rien à ajouter, elle a raison. C'est vrai que c'est un attentat politique, il n'y a aucun doute. Et si un souverainiste enragé avait essayé de tuer Jean Charest, certains, peut-être pas M. Charest, peut-être qu'il aurait fait la même chose que Mme Marois, il aurait peut-être eu la classe de dire, garde, on jouera pas la game politique. Mais d'autres auraient peut-être dit, on sait bien, le nationalisme québécois, mm-hmm. le racisme, regardez, la violence. Peut-être que certains se seraient servis de ça pour... comment je pourrais dire ça, splasher un peu à la grandeur. Madame Marois l'a pas fait.
Pas fait. Le prochain extrait va soulever peut-être un débat qui va être intéressant. Pauline Marois est arrivée seule à notre rendez-vous. Elle est arrivée avec sa propre voiture, par ses propres moyens, pas de garde du corps, pas rien.
T'as pas eu quel char qu'elle a, une Ferrari?
Elle avait
une Lamborghini.
Tout ce que je sais, c'est qu'elle avait un char électrique. Non, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle avait un char électrique parce qu'elle cherchait une borne pour se brancher. Et quand un premier ministre quitte la politique, les avantages qu'on leur donne ont changé au fil des années. Et Pauline Marois nous explique ce qu'elle pense de ces privilèges-là.
Dans le cas du Québec, on avait une tradition à l'effet que il y avait au moins pour un premier ministre sortant un garde du corps, une adjointe ou un adjoint et un bureau. C'est ce qu'a eu M. Parizeau. Il n'y avait pas de temps. C'était illimité. Et après ça, quand M. Charest a quitté, il a demandé à ce qu'il ait un garde du corps, des gardes du corps pendant 3 ans, un bureau puis un budget. Et moi, j'étais première ministre, puis on a accepté ça. Parce qu'on trouvait ça raisonnable. Quand moi, j'ai quitté, j'ai eu la même chose, le même traitement. Pas rien de plus, rien de moins, exactement le même traitement. Monsieur Couillard, lui, a jugé que ça n'avait pas de bon sens. Il a décidé que c'était terminé, qu'il n'y aurait qu'un an où il y aurait quelqu'un qui continuerait de nous accompagner. Alors, moi, ça a duré 3 ans. Moi, j'avoue, très honnêtement, voyez-vous, si je dis ça, vous allez avoir des réactions sur les réseaux sociaux, là, mais c'est pas grave. Moi, je crois qu'un premier ministre, un ancien premier ministre, même s'il continue d'avoir une fonction professionnelle, on devrait avoir au moins un espace, pas un bureau luxueux, mais un bureau avec quelqu'un qui fait notre correspondance. Parce que si vous saviez le nombre de demandes que j'ai, de recherches, de lettres, de recommandations, d'appui, de rencontres, d'entrevues, etc. Garde du corps, ce serait bien, mais c'est pas essentiel à mon point de vue. Sauf les premières années, parce qu'effectivement, il y a quand même... Il y a des risques aussi, hein? T'sais, moi, je me promène toute seule maintenant, partout, je fais mes affaires et tout. Puis j'ai pas peur, j'ai jamais eu peur de ma vie. Je commencerai pas maintenant.
Ah, mais pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour avoir des commentaires. On peut en faire nous-mêmes. Sais-tu quoi? Je suis d'accord avec elle, mais à condition. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est à vie?
Oui.
Un ancien président a de la sécurité, un budget, du monde autour de lui, à vie. Bon, ici, c'était 3 ans, ils ont fait passer ça 1 an.
Ouais.
Moi, le garde du corps, je serais prêt à fournir ça, moi. Un bureau, oui. Le budget, ça dépend. Si je peux pas me souvenir de ça. Mme Marois s'est entre autres servi de son budget pour financer une étude sur la radio de Québec, qui était, à mon avis, légèrement biaisée, à mon humble avis. Alors, moi, je suis prêt à y en donner. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que c'est t'encourages des œuvres caritatives? Les anciens présidents, c'est ce qu'ils font. Ils donnent à toutes sortes de patentes. Il faut pas que ce soit politique. Moi, je leur donnerai un budget, garde du corps, bureau, mais fais plus de politique, là. Tu sais, paye pas, finance pas quelqu'un qui fait une recherche là sur les radios poubelles. Là. Voyons, c'est revenir dans le passé un peu, là. C'est comme... Mais à ces conditions-là, je serais d'accord avec elle.
Et en terminant, je pense que ça va te faire rire. Vous vous souvenez que je vous avais déjà dit que quelqu'un m'avait rapporté que M. Charest mettait en garde ses nouveaux venus en politique contre 3 possibles dangers de la politique. Le premier, c'était vous allez prendre du poids. Faites attention. Le deuxième, c'était vous allez vous mettre à dépenser votre argent énormément. Le pouvoir amène l'une de ces 3 choses-là. Et la troisième chose, c'était vous allez peut-être tromper votre conjoint. Vous allez peut-être vous mettre à avoir des aventures extra-conjugales. Qu'est-ce que Pauline Marois pense du constat de M. Charest?
Il arrive des choses comme ça. Il y en a souvent qui prennent un peu de poids. Mais il y en a d'autres qui le perdent aussi, tu sais, qui en prennent puis qui le perdent. Ben, c'est amusant parce que vous savez que M. Charest a un grand sens de l'humour, oui. Hein? Bon, il était reconnu pour ça et de fait, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai fait des hauts, des bas, en termes de poids. Oui, mais ça a été l'histoire de ma vie, donc c'est pas particulier au fait que je sois en politique. Et puis, souvent, les vies sont brisées, les vies de couple. Ça, c'est triste, c'est malheureux, parce que le stress est tellement grand, l'éloignement, les exigences. Moi, ça prenait, nous, dans notre cas, ça prenait un couple très fort, très solide.
Alors oui, ça peut arriver. Ce sont des dangers qui existent.
Pas toujours facile, la politique.
Non.
C'est pas facile. 40 ans, je terminerai en 10 ans sans rancune. Faut pas que ce soit... Je sais pas si elle en a encore. Ça n'a pas été abordé, là.
Mais elle n'aurait pas accepté, c'était
envers
ça.
Déjà. Peut-être, ouais. Mais il faut pas que ce soit personnel. Il y a quand même de quoi qu'on peut admirer dans l'engagement politique chez certaines personnes. Surtout, il y en a beaucoup qui auraient pu faire beaucoup plus d'argent ailleurs. Philippe Couillard aurait pu faire plus d'argent. Mm-hmm. Les avocats comme Charest, etc. Tu sais, en quelque part, vous allez dire, ouais, mais ils l'ont fait pour peut-être de mauvaises raisons, le pouvoir, etc. J'ai peut-être un petit fond de naïveté encore. Moi, je pense qu'il y en a là-dedans qui l'ont fait pour les bonnes raisons. Même si on n'était pas d'accord. Ça peut être des raisons comme l'indépendance, des trucs, des idées, des programmes que nous, on n'aime pas, mm-hmm. mais eux, ils y croyaient.
C'est encore plus vrai aujourd'hui parce que c'est vraiment plus difficile d'être en politique aujourd'hui que ça l'était à l'époque. Les attaques sont de tous bords, de tous côtés. Pas moyen de te présenter en campagne électorale sans avoir peur qu'ils sortent une histoire vieille de 20 ans. Puis c'était pas ça dans le temps. Il y avait un respect, me semble, des candidats. À moins qu'il y ait quelque chose de vraiment scandaleux sur toi, là. Mais sortir une proposition de consommateur qui t'a faite il y a plusieurs années, qui ont fait au ministre de la Famille, ça serait pas arrivé, ça, dans le temps, là, tu sais.
Un bon point. Fait que tu y vas pas, non? Tu te lances pas?
Tu malade, mais j'ai pas de squelette, c'est ça le pire. J'ai pas de squelette dans mon placard, mais ils peuvent bien trouver quelque chose, ça.
Ben, t'as travaillé à Radio de Québec.
Et là, là!
Pour certains, c'est déjà grave.